l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Superbagnères 94.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce Présence Midi. Bonjour David Torchala.
Bonjour Philippe, bonjour
vous,
tout le monde.
Vous m'avez l'air bien fatigué David.
Oh ben un petit peu, vous savez, ça c'est le lendemain de 15 août.
On va parler d'ailleurs de l'actualité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. On va dire deux mots sur ce beau pèlerinage du 15 août de l'Assomption. Et puis vous nous direz aussi que les préparatifs du pape, ça avance. Beaucoup de préparatifs.
Oui, ça, je vous le confirme, ça avance. Mais par contre, les jours reculent, donc il va falloir être prêt, mais on le saura.
On le saura, je vous fais confiance. L'été, c'est aussi l'occasion de se reposer, mais également de faire des belles découvertes et de se cultiver. Mais je vous propose d'aller découvrir un musée. Un musée qui le consacré entièrement à un grand auteur de la littérature française, qui est M. Victor Hugo. Il n'est pas très loin d'ici, il est entre Tarbes et Lourdes, il est à Juillan. Il est très peu connu et je propose de découvrir donc ce magnifique musée. C'est un des plus fournis de France et il est ici donc à découvrir dans quelques instants. Et puis c'est une figure que nous aurons dans le magazine de passage à Lourdes. C'est aussi l'occasion l'été d'entendre ou de réentendre le meilleur de la saison dernière. Eh bien c'est le cardinal Bustillo qui sera avec nous aujourd'hui puisqu'il a écrit un livre il n'y a pas très longtemps. Eh bien il viendra nous parler de ce livre avec au micro de Mathias Terrier. Mais pour l'heure, on fait un petit point sur l'actualité de notre région avec l'essentiel tout de suite avec les élèves de l'école de journalisme de Toulouse.
Bonjour à tous. Dans les Hautes-Pyrénées, de violents orages ont provoqué plusieurs dégâts. La foudre a notamment frappé un clocher qui a pris feu. Les fortes pluies ont également entraîné des coulées de boue dans certains secteurs. Dans le Tarn, les vendanges ont commencé avec près de 3 semaines d'avance dans le vignoble de Gaillac, mais la récolte s'annonce faible avec jusqu'à 40% de pertes pour certains viticulteurs. La sécheresse fragilise aussi les forêts d'Occitanie. Dans le Lot, les spécialistes observent quelles espèces résistent le mieux au manque d'eau et aux fortes chaleurs. Et en Haute-Garonne, les refuges animaliers font face aux abandons de chiens et de chats pendant l'été, alors que les places sont déjà limitées. En sport, nouvelle médaille pour Léon Marchand. Le Toulousain et l'équipe de France décrochent le bronze sur le relais 4x100 mètres 4 nages au championnat d'Europe de natation. Et enfin, dans le Gers, coup de projecteur sur la croustade, ce gâteau traditionnel à la pâte très fine, parfois parfumée à l'armagnac. Voilà pour les titres de l'actualité.
Et que ça a l'air d'être bon tout ça, l'armagnac.
Radio Présence dans la Cité Mariale, 96.
On parlait de la canicule à l'instant dans l'essentiel de l'actualité. Est-ce que la canicule a fait fuir les pèlerins pour ce 15 août, David?
Ah, c'est vrai. Bah, écoutez, on a même accompagné le départ de la canicule à Lourdes parce que c'est vrai que nous avons vécu un magnifique pèlerinage national et une très belle fête de l'Assomption. Effectivement, c'était par chance, avec un clin d'œil du ciel, on a pu célébrer la messe sur la prairie. Et ça faisait longtemps que nous n'avions pas pu parce que les deux dernières années, la canicule frappait et donc empêchait les pèlerins de pouvoir se réunir sur la prairie du sanctuaire en extérieur pour vivre la célébration. On était contraints ces deux dernières années de devoir se replier à la basilique souterraine Saint-Pédis. Et bien cette fois, samedi, il faisait bon sur cette prairie où 17 000 personnes se sont rassemblées avec le cardinal Vesco, l'archevêque d'Alger, qui a présidé magnifiquement cette solennité de l'Assomption, en présence de nombreux évêques, notamment Mgr Jean-Marc Micard, l'évêque de Tarbes-et-Lourdes, évidemment, qui était là. C'était évidemment un jour de fête pour la cité mariale. Et puis aussi avec tous les membres de cette grande famille des Augustins de l'Assomption. Voilà, les Assomptionnistes qui amènent encore cette fois 7000 personnes de toutes les régions de France pour vivre un pèlerinage au cœur de l'été. Pour entourer les personnes malades, les personnes fragiles, les personnes handicapées, de pouvoir venir à Lourdes pour ce pèlerinage. Il y en a plein des pèlerinages, c'est vrai, ils sont plus de 500, en tout cas de venir de manière officielle, et puis entre 5 à 6 000 groupes par an. Mais c'est vrai que le pèlerinage national français, eh bien, il est connu, c'était la 153e édition, et donc il draine avec lui beaucoup de médias. Donc nous avons reçu énormément de journalistes qui nous ont posé cette question. Est-ce que le 15 août à Lourdes, c'est une répétition avant le pape? Alors, c'est pas tout à fait vrai de dire que c'est une répétition, même si c'est vrai que c'est beau. 17 000 personnes sur la prairie, c'est 150 000 personnes que nous attendons pour les 26 et 27 septembre prochains. Donc, c'est 10 fois.
On n'est pas à la même échelle.
C'est ça. C'est 10 fois le 15 août. Alors, dit comme ça, c'est impressionnant, mais dans les faits, ça se travaille. On l'a fait en 2004, en 2008, pour les venues des papes Benoît XVI et Jean-Paul II, et en 83, évidemment. C'est possible, mais effectivement, c'est déjà beaucoup de travail.
C'est beaucoup de travail, effectivement, et je pense que les médias, vous venez de le dire, qui étaient là pour couvrir ce 15 août, a dû sûrement poser énormément de questions sur l'événement qui arrive à la fin du mois de septembre.
Oui, évidemment, et donc se préparer, non, on n'est pas encore prêt, ça c'est sûr, mais c'est normal, il reste encore un bon mois pour le faire, et puis il faut aussi prendre le temps d'arrêter le temps de la préparation du pape aussi pour célébrer le 15 août, mais vous voyez, on est déjà lundi matin et donc on est déjà à nouveau aux affaires.
Est-ce que le monde sera là? Je regardais un reportage qui disait que en une heure, le Stade de France à Paris avait été complet pour le pape. Alors, est-ce que c'est le même engouement pour Lourdes?
Il y a un très 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 fort engouement, ça c'est sûr, pour la figure de Léon XIV en France. Évidemment, on a été aussi emporté par cette communication sur le système de billetterie qui est mis en place tant pour la messe sur la place de la Concorde et puis les Champs-Élysées comme au Stade de France. Et ce n'est pas du tout l'habitude du sanctuaire et on ne fera pas non plus de billetterie. Mais c'est extrêmement important de pouvoir s'inscrire parce que nous avons lancé des inscriptions et aujourd'hui nous sommes à 100 000 personnes qui sont inscrites pour vivre la messe, pour vivre l'arrivée du pape le samedi soir, le 26 septembre, à la grotte, ou aussi pour vivre le dimanche soir cette procession mariale au flambeau. C'est important parce que ce n'est pas l'habitude du sanctuaire ou nécessaire de s'inscrire, mais là on a vraiment besoin de savoir qui vient, d'où viennent les pèlerins, donc de quel axe, est-ce que c'est plutôt de l'axe de Pau ou plutôt du nord du département, s'ils viennent en car, s'ils viennent en voiture personnelle. Vous voyez, à titre d'exemple, on est quasiment à 800 bus qui viendront à Lourdes pour notamment la journée du dimanche. Donc vous imaginez bien que dans une ville de 13 000 habitants, 800 bus qui arrivent spontanément, il va falloir organiser. Et c'est pour cela que nous avons vraiment des séquences de travail très 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 régulières avec les services de l'État. Mais ce sont des données que nous arrivons à avoir grâce à l'inscription, tant pour les groupes, tant pour les familles, les individuels, mais moins de 10 personnes, que vous veniez en famille, avec des amis, avec des voisins, venez, dites-le nous, sur le site internet du sanctuaire, on peut pas le manquer, il y a une grande bannière avec le pape et la photo du pape, et donc on vous invite évidemment à vous inscrire. C'est surtout un moyen de pouvoir entrer en contact avec toutes celles et ceux qui s'inscrivent, pour vraiment donner les meilleures informations les plus fidèles par rapport à l'accès, par rapport à l'arrivée. C'est aussi l'occasion pour les personnes de nous dire si elles sont accompagnées par des personnes qui ont besoin d'un accompagnement particulier. Je pense particulièrement aux personnes à mobilité réduite. Ça nous permet d'avoir ces informations, de pouvoir dire entrer par telle porte ou par telle porte. Car évidemment, il y aura des conditions d'accès qui seront de fait différent que d'habitude, avec un système de navettes qui sera mis en place, des parkings qui seront réquisitionnés. Mais bon, c'est vrai que c'est pas habituel de devoir se garer à Tarbes pour prendre le bus et venir à Lourdes. Mais là, il faudra le faire, et il faudra très fortement le faire. C'est pas si compliqué que cela. Mais voilà, il faut jouer le jeu de l'organisation, de l'inscription. Mais vraisemblablement, on devrait y arriver. On devrait avoir de la place pour tout le monde.
Et toutes ces informations, bien sûr, seront sur le site du sanctuaire. Hein, les infos pratiques pour venir.
Exactement. Donc elles le sont déjà pour partie. Et puis évidemment, ça sera complété. Affiné. On a fait toute une liste des questions les plus fréquentes que l'on nous pose. Donc pour essayer de répondre à tous, hein, vraiment les questions d'ordre avant hein, de venir à Lourdes. Hein, est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce que tout le monde aura un accès à la messe? Combien de temps il faut venir avant au sanctuaire? Ça, je vous donne déjà la réponse. Ben, c'est peut-être un minimum de 3 heures quand même hein, pour arriver à Lourdes. Voilà, avec une messe qui sera à 11h dimanche 27 septembre. Il faut évidemment arriver le plus tôt, tant pour accéder jusqu'au sanctuaire, passer le filtrage de sécurité, parce que ça, c'est une question qui est importante, et pouvoir être accompagné jusqu'au carré pour pouvoir suivre la messe sur la prairie du sanctuaire. Et puis nous avons fait également toute une série de questions sur la manière hein, de se rendre à Lourdes. Voilà, vous garer les navettes. Alors on donnera un peu plus de détails quand on aura au fur et à mesure que nous aurons les informations. Pour entrer, alors pas besoin de badge. Voilà, je vous le dis à tous, parce que je crois qu'à chaque fois que je vois du monde, tout le monde me demande un badge. Non, vous inquiétez pas, il n'y aura pas besoin de badge. Ne seront badgés que les personnes qui ont un rôle véritablement à faire dans l'organisation, tant les salariés du sanctuaire que les bénévoles. Et puis oui, on pourra porter le pique-nique, parce que c'est avant tout une fête. Et ça, c'est Monseigneur Mika, notre évêque, qui nous le dit. Vous savez, la vie du pape, c'est d'abord une fête. Oui. Donc oui, on prend le pique-nique, oui, on vient en famille, oui, il y aura des temps d'attente, mais on préparera également des temps d'animation avec des chanteurs, etc. Donc entre les célébrations sur le podium du pape, un grand podium qui sera édifié sur la prairie du sanctuaire, et on va vivre une très très belle journée, une belle soirée hein, du samedi soir avec l'arrivée du pape à la grotte, et puis voilà, cette belle journée du dimanche avec la messe dominicale et la procession mariale le soir.
Et puis moi j'invite les auditeurs à être fidèles à cette chronique, puisque je pense que de semaine en semaine vous allez nous donner des nouvelles voilà, de l'arrivée du podium, la construction du podium, la mise en place, oui, les essais.
Évidemment, ça sera à partir du 7 septembre, parce que ça y est, là les premiers échafaudages vont pousser à partir du 7 septembre, pour être prêt pour le 26, mais promis, vraiment, je vous donnerai toutes les nouvelles, parce que c'est bon de les partager, et c'est bon de vous informer, et puis vraiment, on a dans le cœur de pouvoir vous accueillir en vrai le jour du pape, et puis si vous ne pouvez pas, pour toutes les raisons qu'évidemment nous comprenons, eh bien, nous serons là aussi avec Radio Présence pour retransmettre en direct l'ensemble vraiment des célébrations, et puis aussi Paris, Lourdes, et puis aussi Metz.
Voilà, comme vous avez fait d'ailleurs hier pour la messe de l'Assomption, puisqu'elle était retransmise.
C'était samedi, c'était avant-hier.
C'était avant-hier,
ben oui,
pardon.
Ben ouais, 15 août, s'il ne tombe pas un dimanche, ça nous perturbe tous.
Exactement. David, juste un petit mot pour dire que un pèlerinage, un chasse à l'autre. Un autre qui est haut en couleur, bien sûr, c'est le pèlerinage des gens du voyage qui sont là.
Oui, ils sont là. Ils arrivent avec l'ouverture des terrains cet après-midi à 14h, qui donne des scènes vraiment toujours surprenantes à Lourdes, parce qu'évidemment, toutes les familles de voyageurs arrivent et sont en attente de pouvoir être placées dans les terrains qui leur sont mis à disposition par la ville de Lourdes. Et donc, voilà, ils occupent tous les supermarchés, tous les parkings, en tout cas, possibles. Et donc, il va y avoir là une belle chenille processionnaire de caravane qui va déambuler dans la ville pour pouvoir trouver un placement. Donc le pèlerinage, il démarre aujourd'hui, parce que quand on a trouvé la place, une fois qu'on a posé la caravane, c'est le début du pèlerinage jusqu'au 25 août. Donc c'est 3000 environ personnes voyageurs qui sont attendues pour vivre un beau pèlerinage à la grotte, avec il y aura aussi une très belle procession mariale au flambeau, avec l'aubade des musiciens, et puis toujours ces images qui font la particularité de ce pèlerinage des gitans et du gens du voyage, ces magnifiques grands cierges décorés, ces croix tressées, et puis les guitares et les chants, etc. Donc voilà, le pèlerinage démarre cet après-midi. Là aussi, c'est un beau défi logistique aussi pour toutes celles et ceux qui assurent la sécurité de la ville et puis l'accueil des voyageurs. C'est pas toujours simple, mais on y arrive aussi tous les ans. Donc vous voyez, à Lourdes, nous sommes quand même des résilients. Hein. On a toujours quelques difficultés logistiques. Ben oui,
qu'est-ce que vous voulez ? On y arrive quand même.
La Sainte Vierge a choisi d'accueillir dans une bourgade des Pyrénées, dans le creux d'un rocher. Et donc, évidemment, nous n'avons pas de grands boulevards et de grandes avenues, mais on arrive quand même.
Mais on y arrive quand même. Un grand merci, David Urchela. Donc, on invite vraiment les auditeurs à aller se renseigner sur les pèlerinages présents aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Il y a des pèlerinages chaque semaine.
Ça, c'est notre défi. Hein. Vous savez, les pèlerinages continuent et ils ne s'arrêtent jamais. Et donc, même si le pape vient 26-27, ce n'est pas pour autant que le sanctuaire sera fermé avant. Et puis, je peux même vous donner une information, c'est que le 28 septembre, dès le lendemain, on continue. Et donc, on ne fermera jamais.
Et le rosaire qui arrivera vite.
Et la semaine juste après, il y aura évidemment le pèlerinage du rosaire. Ça, c'est vraiment un défi pour nous, en tout cas.
Et après, je vous annonce que David Urchela se prendra des vacances.
C'est fort possible. Et avec les vacances scolaires, pour profiter des enfants.
Voilà. Écoutez, merci beaucoup, David, pour tous ces renseignements. On suivra ce feuilleton passionnant donc, de l'organisation, parce que vous faites partie des organisateurs, donc vous allez dans les réunions, et donc vous nous faites profiter aussi un peu de ce qui se passe, et puis de cette organisation qui se met en place. Vous venez de le dire petit à petit. Voilà.
Merci beaucoup.
À la semaine prochaine. Au revoir. Allez, moi, je vous amène tout de suite au musée.
Présence à Saint-Céré, 95.8.
Ce matin, je vous amène pas très loin de Tarbes, je vous amène à Juillan, avec vous Jean-Claude Rieux-de-Batte, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, on n'est pas dans l'excellente émission de Philippe Denis et Diego Rabal, Un jour, un livre, un auteur, mais on va parler de livres et d'un auteur, peut-être un des plus grands auteurs, Victor Hugo. Vous êtes le président d'un musée, le musée Victor H. Mmh. C'est quoi ce musée et où on peut le trouver ?
Alors, c'est un des très rares musées existants sur Hugo. Il n'y en a guère qu'une petite demi-douzaine, enfin 4 ou 5 en France, et puis 2 à l'étranger. Et j'ai eu l'idée d'aménager ce musée, à vrai dire, parce qu'on s'était constitué en groupement de sympathisants. Plus tard, on a formé une vraie société de type 1901, loi de 1901,
oui,
avec des statuts, etc. Et la municipalité nous a octroyé une salle dans une ancienne ferme qu'elle nous a restaurée. Petit à petit, nous avons rempli les murs de documents, tableaux, photos, écrits, affiches, et il ne reste plus de place du tout. Tous les murs sont pris maintenant par diverses choses qui ont toutes trait à la vie et à l'œuvre de Victor.
De Victor Hugo. Voilà. Pourquoi cet auteur particulièrement a retenu votre attention ? Comment ça s'est passé ?
C'est une question qui m'a souvent été posée, et à vrai dire, autant que je puisse le dire, j'avais 11 ans, en CM2, à l'école primaire, et l'instituteur nous avait fait apprendre un immense poème dans la légende des siècles qui s'appelle « Les pauvres gens ». Et allez savoir pourquoi, ce texte m'a beaucoup touché. Les images, les rimes, le contenu, etc. J'avais appris ça par cœur, sans doute, sans problème. J'avais fait un très joli dessin pour illustrer le poème, je me souviens. Et puis ça a commencé là, je suis sûr que ça a commencé là à 11 ans, et puis avec des hauts et des bas bien sûr,
oui,
mais pas trop je dois dire dans le cadre scolaire après, parce que je n'ai pas eu l'occasion dans les programmes scolaires de fréquenter, hormis une fois en seconde ou première, on avait Ruy Blas au programme, sauf qu'on avait un professeur qui n'aimait pas du tout Victor Hugo.
Ah, c'était l'arrangerie.
Donc ça n'a pas joué beaucoup là, mais après coup, je me souviens que vers l'âge de 18-20 ans, alors que j'étais faisais des études à Toulouse, mais pas des études de lettres françaises, j'ai lu, donc pour mon plaisir, Les Misérables, Les Contemplations, Les Châtiments, Les Travailleurs de la Mer, tous ces chefs-d'œuvre. Et plus je lisais, et plus il me semblait que j'avais des espèces de connivence avec Victor, ce qui peut paraître très immodeste, mais c'est un peu comme ça que je le ressentais, donc voilà. Et puis j'ai réussi à décider une demi-douzaine de juillet-année. à me suivre dans l'aventure, et donc nous faisons vivre ce musée.
Alors comment on le fait vivre? Qu'est-ce que, à part bien sûr ce que vous avez dit, les murs sont recouverts de portraits, d'anecdotes, de pages manuscrites, je suppose. Comment on fait vivre un musée? Qu'est-ce que vous a mené?
Alors on s'y retrouve déjà pour répéter nos spectacles. Et puis, on y produit des soirées aussi, 3 soirées par an, en général, où les gens viennent, puisqu'il y a 50 de places, à peu près. Et donc, on y passe des moments agréables, en toute intimité, en toute connivence, avec Victor. Oui, voilà.
Alors, oui, alors on le comprend, mais c'est quoi le concept? Vous lisez?
Alors,
vous avez des lecteurs?
C'est très varié. On y dit, oui, on lit. Moi, je n'aime pas lire. Je préfère avoir les textes dans la tête. Donc, je les mémorise, je les ressors de mémoire.
D'accord.
C'est plus facile après quand on y met les gestes. Et puis, il y en a qui lisent, d'autres, et puis parfois des petits sketchs qu'on monte aussi sur place avec le matériel que nous avons, et puis selon les disponibilités et les rôles de chacun. Et puis il y a une librairie, si je puis dire, une bibliothèque où sont toutes les œuvres de Victor en double exemplaire, dans 2 collections différentes. Et là, les gens peuvent se servir et voilà, et emporter provisoirement.
Voilà, quand une bibliothèque, voilà, on les ramène après. Voilà, quoi. C'est voilà, ça. Oui. L'idée, c'est vraiment de faire connaître l'œuvre de Victor Hugo au plus grand. Est-ce qu'on vous demande des conseils de lecture?
Non, pas trop. Moi, souvent, je dis aux miens, tiens, tu devrais lire ça, préparer un peu pour la prochaine fois ce texte-là. Donc, voilà, plutôt comme dans ce sens, comme ça.
Vous me disiez au début qu'il y a une petite douzaine de musées en France sur Victor Hugo. Oui. Est-ce que vous avez été les visiter? Oui. Et le vôtre, qu'est-ce qu'il apporte de plus ou de moins que les autres?
Alors, j'ai visité celui de Besançon, je n'ai pas pu parce qu'il n'existait pas à l'époque. J'ai visité évidemment celui de la Place Royale, la Place des Vosges à Paris, il y a très longtemps. Je suis allé 3 fois à Guernesey, visiter sa maison qui a été transformée en musée, Hauteville House. Je suis allé à Saint-Sébastien aussi, à l'extérieur de Saint-Sébastien, en Espagne, où il y a un musée, enfin une maison, la maison où il a résidé pendant un mois, qui a été transformée en musée. Et puis il y a le nôtre, donc. Et qu'est-ce qu'il apporte de plus? Je ne sais pas. Nous y avons donc un texte de Hugo. On nous a promis, un Juliani nous a promis un dessin de la main de Hugo. Et là, on est preneur. Là, on est preneur, oui. Un ami, la semaine dernière, m'a transmis une photo du siège de Victor Hugo au Sénat. Et où il y a marqué sur une plaque de cuivre son nom avec les dates où il a siégé. Curieusement, c'est le siège qu'a occupé aussi Clémenceau après lui, et étonnante coïncidence, siège qui a été aussi occupé par Jacques Duclos. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Jacques Duclos de Louey, à côté de chez nous.
D'accord,
là,
oui.
Qui était donc le numéro 1 du Parti communiste à son époque et qui a été candidat à la présidence de la République en 1965, où il avait récolté quand même 22 ou 23%
des
suffragilités de Louey.
Et Marquisa, puisqu'on parlait de Julien. Oui.
Et alors, quand sa maison a été vendue, elle a été rachetée par la municipalité de Louey, et il y avait une bibliothèque. Et je me souviens d'avoir lu dans la presse que dans sa bibliothèque, il y avait quand même 15 ouvrages de Victor Hugo. Donc il devait être hugolien lui aussi.
On parle de Louey, on parle de Julien. Vous disiez que Victor Hugo avait traversé Julien.
Oui.
Peut-être pas, il s'est peut-être pas arrêté, parce qu'à l'époque, bien sûr, Julien ne ressemblait pas forcément à ce que c'est aujourd'hui.
Non, il est passé dans le 3 septembre 1843, entre 10h et 11h du matin.
C'est précis.
Ah oui, parce qu'on sait qu'il est arrivé à Tarbes vers midi. Donc avec un ami Jacques, là, on avait imaginé ce qu'il a pu dire en traversant Julien. Il voyageait toujours sur le devant de la diligence, il aimait bien être fouetté par le vent, et Juliette Drouet, elle était au chaud dans la cabine, et on a imaginé qu'il a pu dire au cocher, quel est le nom de ce village dont on aperçoit le clocher là-bas derrière les arbres? Et le cocher disant, c'est Juillan, monsieur. Alors Hugo, ah, Juillan, un bien joli nom pour un village, et y a-t-il une auberge? Je ne sais pas, monsieur, mais ce que je sais, c'est que nous sommes à 1 lieue de Tarbes et que nous allons arriver dans 1 heure. Et Hugo finit par dire bon, alors dans ce cas, j'attendrai. Et puis, bon, ils sont passés. Voilà.
À travers l'auteur, est-ce que vous faites découvrir aussi qui était Victor Hugo dans son intimité?
Oui, on m'a dit que souvent que je devrais faire une séance sur Victor Hugo et les femmes. Et il y a effectivement là beaucoup à dire. Je le ferai sans doute un jour, oui.
C'est quelqu'un qui a eu...
Après, j'ai fait des spectacles sur Victor et l'ours. Et l'ours pyrénéen, d'accord. Oui. J'ai fait Victor et les enfants, Victor et la langue anglaise, Victor et les patois, parce qu'il était aussi ouvert à ce genre de choses. Voilà, c'est assez varié.
Ouais. Assez varié.
Voilà,
c'est quelqu'un qui vous malgré les années qui passent, votre âge...
Oui, ça ne faiblit pas. Au contraire, je dirais.
Ce musée a donc, et cette association qui s'appelle Victor H, pour Victor, bien sûr, Victor Hugo. Où se situe ce musée et comment, si des gens nous écoutent et souhaiteraient, eh bien, peut-être grossir les rangs de votre association ou le visiter, comment on peut faire?
Alors, il se situe au 3 place Antonin Betbèz, ça s'appelle comme ça. C'est presque au centre du village, un peu en retrait par rapport à la route qui traverse le village, la nationale. Non, c'est pas une nationale, c'est une départementale. Qui s'appelle la rue Maréchal Foch. Donc, 3 plans Antonin Betbèz, en haut d'un escalier. Alors, ça, c'est pas très commode pour les gens qui sont un peu âgés, c'est vrai, mais on n'a pas eu le choix. Et c'est moi qui ai la clé. Il n'y a qu'une clé, ou alors à la mairie, mais c'est moi qui ai la clé. Donc, il faut me contacter au 12 rue Maréchal Foch si les gens veulent venir.
Je sais que c'est assez facile à vous trouver parce qu'il y a le stade de rugby, bien sûr, à l'entrée de Juillet.
En face, les poteaux.
En face, les poteaux, il y a votre maison.
Depuis ma cour, je peux taper un drop.
et donc, on peut rentrer en contact avec vous, Jean-Claude Rieux de Batte, parce que vous avez la clé et puis vous avez aussi la connaissance de ce musée. Musée donc qui est consacré à Victor Hugo, j'en connaissais pas hein, ce genre de choses dans notre région. Dans notre région Occitanie, au moins Midi-Pyrénées, où c'est qu'il y en a un autre plus
non,
plus
non,
près,
non,
il y en a
non,
pas.
À ma connaissance, on est les seuls, oui. Non, parce qu'il n'est pas passé. Il a été diplômé à Toulouse, mais il n'y est pas venu que je sache récupérer son diplôme des Jeux Floraux, donc non. Il n'y a pas d'autre, non.
Donc, vous avez un peu la primeur dans notre région.
Oui.
Voilà, donc ce musée Victor Hugo, Victor H, comment vous l'appelez, eh bien, il faut aller à Juillan. Alors, pour les gens qui nous écoutent un petit peu de loin, Juillan, c'est assez simple. C'est la banlieue de Tarbes, on va dire quelque part. Oui. Hein, c'est pas très loin de Tarbes. Et donc, si on vient de Tarbes et si on veut aller vers Lourdes, forcément, en ne prenant pas, bien sûr, la deux fois de voie, mais l'ancienne route, on passe et on traverse Juillan. Voilà. Et au feu, on tourne à droite
et
vous faites quelques mètres et vous êtes d'abord chez vous et après on vous emmène au musée qui est un petit peu plus loin. Très bien, merci beaucoup.
Juste, je peux préciser une chose. Alors, nous y avons donc deux pages écrites de la main de Victor, ça c'est quand même le plus précieux. Après, nous y avons, j'ai ramené de Guernesey, je dois être un peu fétichiste, j'ai ramené des branches du chêne qu'il a planté le 14 juillet 1870.
D'accord.
J'ai ramené deux galets de la plage où il aimait à se baigner, Fermain Bay, un très joli endroit. Et puis, il y a aussi l'édition originale de quelques ouvrages, et ça, on est fiers quand même. Il y a 93, son roman sur les guerres de Vendée. Il y a Histoire d'un crime, et il y a Les travailleurs de la mer. Et il y a un livre de Lamartine qui s'appelle Jocelyn en vers, et qui est l'édition originale aussi.
Voilà. D'accord, on a cette richesse dans notre région et c'est pas très loin, c'est à Juillan, donc entre Tarbes et Lourdes. Merci beaucoup Jean-Claude Rieux de Batte
avec plaisir
nous parler de ce musée qui est un musée consacré donc à un des plus grands écrivains français.
Le plus grand, je dirais.
Et bien sûr, je vous laisse bien sûr le dire, le plus grand écrivain français, Victor Hugo. Un grand merci à vous et puis à très bientôt, parce que je crois que vous serez l'invité pour un jour un livre en auteur d'ici quelques semaines pour nous parler plus longuement de ce musée. À bientôt.
Merci.
Présence sur le plateau de Lannemezan 92.2.
12h exactement de 30 minutes, passé de 30 minutes, on retrouve tout de suite l'actualité de notre région en compagnie de Clémence Roux, élève étudiante à l'école de journalisme à Toulouse. Bonjour Clémence.
Bonjour à tous. Dans l'actualité régionale, les Pyrénées se remettent des violents orages de ces derniers jours. Dans les Hautes-Pyrénées, la foudre a frappé un clocher et provoqué un incendie. Les fortes pluies ont également entraîné des coulées de boue dans plusieurs secteurs. Après les intempéries, les opérations de nettoyage et de remise en état se poursuivent dans les zones touchées. Dans le Tarn, les vendanges ont déjà commencé dans le vignoble de Gaillac avec près de 3 semaines d'avance. La chaleur et le manque d'eau ont accéléré la croissance du raisin. Mais cette avance ne signifie pas pour autant une bonne récolte. Certains viticulteurs pourraient perdre jusqu'à 40% de leur production cette année, une nouvelle difficulté pour les exploitations. Et la sécheresse touche aussi les forêts d'Occitanie. Dans le Lot, certains arbres supportent mieux que d'autres le manque d'eau et les températures élevées. Les spécialistes observent donc leur évolution pour comprendre quelles espèces pourront le mieux résister à des étés de plus en plus chauds et secs. En Haute-Garonne, les refuges animaliers font face à une période particulièrement chargée. Comme chaque été, les abandons de chiens et de chats mettent les associations sous pression. Alors que de nombreuses places sont déjà occupées, les refuges rappellent qu'adopter un animal est un engagement sur plusieurs années et encouragent les propriétaires en difficulté à chercher une solution avant de l'abandonner. Un peu de sport maintenant avec une nouvelle médaille pour Léon Marchand au championnat d'Europe de natation. Le Toulousain et l'équipe de France ont remporté le bronze sur le relais 4x100 mètres 4 nages. Le nageur français Maxime Grousset faisait lui aussi partie de l'équipe. Une nouvelle récompense donc pour Léon Marchand sur la scène internationale. Et on termine avec une note gourmande. Dans le Gers, la croustade reste l'une des spécialités incontournables du département. Ce gâteau traditionnel est préparé avec une pâte très fine, généralement accompagnée de pommes et parfois d'un sirop à l'Armagnac, une recette locale transmise au fil des générations et toujours très appréciée des habitations comme des touristes. C'était l'actualité régionale. Très belle journée à tous sur Radio Présence.
Et un grand merci à Clémence Roux, donc étudiante à l'école de journalisme à Toulouse. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican. Et maintenant, c'est une personne prestigieuse que nous recevons dans De Passage à Lourdes. Mathias Terrier, en effet, est avec le cardinal Bustillo.
Présence. De Passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de l'apparition de réparation, nous recevons le cardinal François Bustillo. Bonjour.
Eminence. Bonjour.
Bienvenue chez vous, j'ai envie de vous dire, parce que Lourdes est un lieu que vous fréquentez depuis longtemps, que je crois vous aimez, vous nous le direz, on en parlera dans la deuxième partie de cette émission. J'aimerais aussi que nous parlions de la Corse. Parce que vous êtes évêque d'Ajaccio. C'est par là que j'aurais dû commencer. Mais c'est à l'occasion de la sortie de ce livre « Réparation » que nous vous invitons. Ce livre a deux visages. Un premier visage, c'est quand même une description sans concession de ce que nous sommes, de notre société. Puis après, il y a l'horizon de l'espérance que vous proposez dans toute une deuxième partie de cet ouvrage. Vous avez pris conscience ces dernières années que notre société était un peu malade d'elle-même, de ses travers. Comment ça s'est fait pour le franciscain que vous êtes, d'abord, de cette prise de conscience ?
Effectivement, quand on regarde la société telle qu'elle est, nous voyons la réalité. Et dans la réalité, il y a beaucoup de tensions, beaucoup de violences, beaucoup de fractures. Moi, je suis toujours peiné quand j'écoute les nouvelles, et on voit l'autre jour un jeune adolescent de 13 ans qui agresse une enseignante. Mais ce n'est pas normal que nous soyons dans une société si violente, où les plus jeunes, pour une difficulté, ils sortent un couteau. C'est pas normal. Et donc, ces nouvelles deviennent presque naturelles. Et moi, je me dis, il faut réagir. Nous ne pouvons pas nous limiter à constater qu'il y a des problèmes, à constater qu'il y a des difficultés et à les dire par les médias ou les réseaux sociaux. Il faut quand même qu'il y ait une réaction adulte, mature, courageuse pour changer cette mentalité. Nous sommes devenus tous des juges. On est une mentalité des juges. On juge, on condamne celui-ci, celui-là. Il a fait, il n'a pas fait, il a dit, il n'a pas dit. Et je crois qu'il serait intéressant et important pour notre société de développer une mentalité de philosophe, où au lieu de juger et condamner, on essaie d'abord de connaître et de comprendre les autres, et après de grandir avec eux.
Et donc vous trouvez que cette société, elle est malade de cela, du jugement hâtif, elle est malade aussi de cette capacité à lapider, alors médiatiquement, socialement.
Nous sommes habités par la peur. Je crois que la peur est la racine de ces mécanismes qui nous poussent les uns contre les autres. L'autre, au lieu d'être un cadeau, est vu comme un fardeau. Et à la fin, on a peur des autres. Et on se protège des autres. Et on attaque ceux qui ne sont pas comme nous. Quelque part, on développe une logique, une mentalité tribale où on protège les siens et on attaque les autres. Et à la fin, on vit dans la peur et la méfiance. Il me semble important pour une société adulte et pacifique, civilisée, de retrouver l'espérance, de retrouver l'intelligence. Parce que je crois qu'il y a beaucoup d'émotions en tout ce qu'on fait. Beaucoup des réactions se font dans l'émotion, sans réflexion. Retrouver la réflexion, retrouver la rationalité, contrôler les émotions pour être moins tendu, moins crispé et moins violent.
On continue sur la description que vous faites de ce que nous sommes, de notre société. Vous dites qu'il y a quasi un repli tribal, parfois. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le repli identitaire aussi ? C'est tout ça ?
Nous sommes tous tellement durs, intransigeants et violents qu'à la fin, il y a une forme, on déclenche une forme d'hermétisme où on est seulement avec ceux qui sont comme nous. Ceux qui sont bien gentils comme nous, ceux qui pensent comme nous, et on risque de tomber dans une forme clonique de société, où on est tous pareils. Et la dimension de la diversité, la dimension de l'altérité, la dimension de la complémentarité, sont complètement érosionnées, disparaissent. Je crois que qu'il y ait des différences dans la société est très sain. Qu'il y ait de personnes qui ne pensent pas comme moi, qui n'ont pas mon caractère, qui n'ont pas mon parcours et mon histoire, c'est normal. Ce n'est pas un danger pour moi. À nous d'être intelligents et de savoir que l'autre n'est pas une menace, mais un atout. Mais je dois connaître l'autre, grandir avec l'autre et voir que l'autre n'est pas contre moi nécessairement. Après, s'il est contre moi, je gère. Nous avons tous des mécanismes liés à l'intelligence et à notre humanité pour savoir accompagner aussi les moments inconfortables de la vie.
Est-ce que vous diriez que l'individualisme augmente encore ces phénomènes ? Parce que c'est vrai qu'on est tous dans un en-soi, on se fait son petit univers à soi propre, se sacralisant nous-mêmes ou étant dans des processus de défense personnelle.
Tout à fait, l'individualisme, l'égoïsme sacrifie totalement notre tendance naturelle à l'altruisme. On ne va plus vers les autres. On a peur des autres. Ou on va vers ceux qui sont comme nous. C'est-à-dire, on vise la voie de la sécurité. Et le propre de la tradition chrétienne, c'est pas comme quand on prend l'évangile, c'est aimez-vous les uns les autres, et vous êtes tous frères. Et alors moi je me dis, la fraternité, elle est où ? Elle est disparue ? Elle est restée virtuelle, elle est utopique. Et qui croit aujourd'hui à la fraternité ? Et le propre de la fraternité, c'est d'incarner des comportements et des attitudes humaines, civilisées, pacifiques, pour que nous puissions être heureux ensemble. On parle tout le temps du vivre ensemble, mais à la fin, c'est quoi ce vivre ensemble ? Comment on le vit ? On peut vivre ensemble d'une manière malheureuse ou heureuse. À nous de nous appliquer pour que le vivre ensemble ne soit pas une croix, un chemin de croix, mais un chemin de lumière.
Si vous le voulez bien, Mgr Bustillo, dans une autre partie de cette émission, nous verrons quelles sont justement les propositions que vous faites dans ce livre. Mais on en reste là à la description que vous faites de notre société. Vous parlez aussi de toute une démarche de victimisation. Comme si aujourd'hui les personnes se protégeaient en se victimisant. Alors, ça paraît un peu à contre-courant ce que vous proposez là, alors qu'on serait enclin à croire que vous défendez les victimes.
On défend les victimes et on protège les victimes. Mais toujours, ça c'est évident. Mais dans notre société, il y a beaucoup de fragilités. Et nos fragilités nous poussent un peu à nous placer très vite en victime. Si quelqu'un me fait quelque chose, il m'a fait, il m'a dit, et donc je souffre, c'est la faute de l'autre.
Je suis harcelé.
Voilà, on utilise des termes. Alors, avec tous les mécanismes profondément humains. Alors, si moi je viens vers vous, je vous pose des questions, je m'intéresse à vous, il va dire, il me harcèle. Si je vous laisse tranquille, parce que je veux pas être tout le temps sur vous, on va me dire, il m'abandonne. Donc, il y a des mécanismes un peu basiques, binaires,
qui sont exagérés parfois.
Qui ne sont pas sains.
Et qui ne permettent pas de voir les vrais harcèlements et les vrais problèmes d'abus.
Les vrais problèmes de harcèlement, abus, sont graves, touchent à la dignité de la personne. Il faut lutter toujours contre ces mécanismes, ces comportements qui sont mauvais et mortifères. Mais aujourd'hui, on utilise des termes avec une certaine légèreté qui ne correspondent pas à la réalité. Si quelqu'un me téléphone deux fois pour me dire « Est-ce que tu as fait les photocopies à mon évêché ?» Il ne va pas me dire « L'évêque me harcèle ». Donc on doit vivre. C'est pour ça que je dis dans mon livre, on a perdu la dimension de la confiance. Et c'est pour ça qu'on est toujours un peu dans la méfiance. Pourquoi il m'a dit ça? Tu as vu comment il m'a regardé? Tu as vu ce qu'il m'a dit? Si on perd la dimension de la confiance, la confiance, c'est la capacité de vivre une vie relationnelle dans laquelle il n'y a pas de crispation, il n'y a pas de violence. Mais si nous sommes dans la méfiance, et évidemment, on va sentir les autres, ce qu'ils nous disent ou comme ils le disent, comme une agression. Alors comment sortir de cette logique où on se sent tout le temps agressé, on se sent tout le temps menacé? Mon Dieu, il faut respirer un peu. S'il y a des comportements d'abus, il faut les dénoncer, c'est certain. Mais après, dans la vie relationnelle, je dis ordinaire, il nous faut un peu plus de simplicité, je dirais. Il nous faut un peu plus de, je dirais aussi, de force intérieure. Parce qu'il faut avoir la capacité de tenir, d'aller de l'avant, d'être un peu musclé à l'intérieur.
Il y a aussi des pages concernant la question médiatique, qui sont tout à fait intéressantes, parce que vous-même, vous êtes plongé dans cet univers médiatique, comme cardinal de l'Église catholique, exposé, auteur d'ouvrages, invité à de nombreuses émissions. Vous parlez d'un sadisme médiatique. Je voudrais vous dire, Monseigneur, que c'est osé, alors que c'est vrai que les médias vous sollicitent beaucoup, et que je dirais pas qu'ils sont bienveillants, mais quand même, vous êtes assez accueilli dans le monde médiatique.
Oh ben, je rends grâce à Dieu quand je suis bien accueilli.
Mais vous dites qu'il y a un sadisme médiatique.
Alors, pourquoi je dis ça? Évidemment, j'utilise des termes pour provoquer, oui, et pour réveiller les consciences. Dans le sadisme, on fait du mal.
Oui.
On fait du mal. On sait qu'on fait du mal et on continue à faire du mal. Si je dis médiatique, j'ajoute les termes médiatique, c'est parce que parfois, dans la vie médiatique, ceux qui ont des responsabilités politiques, économiques, ecclésiastiques ou autres, on voit les personnes et parfois, si une personne a une faille ou il a fait quelque chose, on va faire une affaire. On va créer des polémique. On va nourrir les polémiques. Et on va s'amuser presque à tirer sur des ambulances. Oui. Ce n'est pas normal. C'est cruel. Donc nous devons apprendre, me semble-t-il, à être beaucoup plus respectueux. Si quelqu'un est en train de souffrir, c'est pas, il y a une personnalité publique. Elle vit quelque chose de compliqué. Déjà, les médias le dénoncent. Si en plus, toi, tu en rajoutes, mais tu te dis, mais est-ce qu'on a pensé que derrière la fonction de cette personne, il y a une personne, il y a une famille, il y a une sensibilité? On n'est pas des robots, on est touché aussi. Et moi, je crois que nous devons être beaucoup plus respectueux du mystère de l'autre. Il y a une justice en ce pays, c'est la justice de faire ce qu'il faut faire. Mais parfois, j'ai l'impression que tout le monde prend la place de la justice. Je crois qu'il faudrait respecter la mission de chacun dans la société. Je ne dis pas qu'il faut être naïf, mais il faut en même temps être indulgent.
Alors dans l'autre partie de cette émission, je vous promets, Monseigneur, nous allons parler de retenue, de nuance, de discrétion, de réflexion, de dignité, d'honneur, de pudeur, de politesse. Parce que ce sont des mots que vous employez aussi dans ce d'émerveillement, de spontanéité. Mais juste pour terminer sur cette partie-là, toujours sur cet aspect un peu médiatique, vous diriez qu'aujourd'hui, plutôt que de développer de la force intérieure, on développe des stratégies de protection, des stratégies de communication, des contournements.
On est presque systématiquement dans la tactique,
dans la tactique,
dans la stratégie,
postures, les postures un peu,
et dans le politique, parce que on a peur de l'autre, on a peur de se faire piéger par l'autre, et à la fin, eh ben on se protège. C'est très basique, hein. On se protège. Et je crois que si on se protège, c'est parce qu'on a peur de l'autre. Et alors, comment arriver à voir, à échanger d'une manière sereine, d'une manière fraternelle, d'une manière intelligente, sans avoir peur que l'autre soit une menace, qu'il me pose la question piège ou qu'il me fasse, je sais pas, qu'il me pose quand même des questions compliquées. Il faut retrouver une forme de sérénité, une forme aussi de confiance pour que dans nos relations interpersonnelles, ne soyons pas toujours crispés, ne soyons pas toujours fracturés.
Le livre s'intitule « Réparation », il est signé Cardinal François Bustillot. Nous marquons une courte pause, si vous voulez bien, Monseigneur, et puis juste après cette pause, nous en arrivons à cet autre grand chapitre que vous proposez, « Retrouver le sens vers une autre manière d'exister ». Et vous nous parlerez du message chrétien, vous nous parlerez de ces beaux mots que sont bienveillance, et puis accompagnement de toutes les personnes dans le cadre d'une miséricorde, du pardon, etc. Parce qu'il y a aussi tout ce volet-là dans votre ouvrage paru aux éditions Fayard. À tout de suite.
Présence
de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Notre invité aujourd'hui, c'est le cardinal François Bustillot. Merci de prendre ce temps avec nous. Vous êtes de passage à Lourdes, je crois que vous aimez ce lieu pour sa grâce, pour sa simplicité, cette simplicité de la foi telle qu'elle s'exprime ici, non ?
C'est le lieu qui a marqué mon histoire personnelle aussi. Et depuis que je suis tout jeune, jeune franciscain, depuis que j'avais 18 ans, je venais à Lourdes, au pavillon de l'Immaculée, à côté du château. Donc chaque été, je venais ici. Après, je suis devenu prêtre, j'ai eu des responsabilités, mais Lourdes a été toujours un lieu où la grotte m'a toujours attiré. Parce qu'il y a ce côté grotte, le côté sombre, mais il y a aussi quand même la présence de Marie avec ce côté lumineux, ce sourire magnifique. Donc c'est un lieu de pèlerinage pour ma vie personnelle, où je viens déposer et remercier pour tout ce qui est bon et bien, et déposer aussi mes questions, mes doutes, mes douleurs, pour que Marie soit ma force et mon soutien.
Pour être consolé, vous diriez ça ?
C'est un lieu de réconfort, absolument. Il faut être réparé, c'est un lieu de consolation, c'est un lieu de réparation, c'est un lieu de réconfort. Et la Vierge Marie, voilà, elle qui était au pied de la croix, elle a cette capacité de nous transmettre la force intérieure pour tenir quand nous vivons nous aussi des croix.
Dans cet ouvrage Réparation, vous posez cette question un peu abrupte. Une société fracturée peut-elle survivre ? Et vous apportez des réponses. Vous croyez en la politique, Monseigneur, et vous le dites. Vous croyez dans le bien commun. Vous croyez dans les vertus qui peuvent paraître, à notre monde d'aujourd'hui, presque naïves, dans le message chrétien. Est-ce que vous diriez, et c'est ma première question, sur tout l'autre volet de votre ouvrage, qui est un volet du sens, d'essayer de redonner de l'espérance, est-ce que vous diriez que le message est difficile à faire passer ? Aujourd'hui pour l'Église. L'Église a du mal avec ce message dont elle est...
Le message est difficile à passer, effectivement, mais il est opportun, il est nécessaire.
Oui.
Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, certaines valeurs, certains principes venant de l'Évangile peuvent sembler des principes pour des gens fragiles, pour des gentils, un peu naïfs, comme vous dites. Mais notre société, elle est devenue tellement dure qu'on est en train de se robotiser. On déclenche des mécanismes carrément liés aux machines. Si je reviens sous des termes un peu comme l'émerveillement, la douceur, la bienveillance, la bénédiction, c'est justement parce que je crois que ces valeurs sont liées à notre humanité, perfectionnent notre humanité, humanisent, je dirais même, notre humanité. Ces valeurs viennent de l'Évangile. Heureux les doux. Les doux ne sont pas les mielleux. Dans la douceur, il y a toujours un lien avec la terre et avec l'amour. Il ne s'agit pas d'être ni naïf, ni rien du tout. Mais quand Jésus dit « heureux les doux », il nous dit « aimer ». Et quand je dis cette longue liste de comportements et d'attitudes, si on va à la racine de tous ces termes, il y a l'amour. Quand tu aimes, tu es doux, tu es respectueux, tu es dans une logique de bénédiction, tu es indulgent, tu crois à la rédemption, etc., etc. Donc il faut revenir, moi je pense que comme dans la tradition grecque il y avait le combat Eros Thanatos, ça continue. Mais il ne faut pas que la mort l'emporte, c'est l'amour qui doit l'emporter. Et peut-être que nous chrétiens, nous ne parlons pas assez d'amour. On va parler d'autres choses, mais on a peur de parler d'amour, parce que si tu parles d'amour, on va voir les côtés un peu romantiques, sentimentaux, un peu légers, peace and love. Et on a besoin de retrouver une société, parce que notre société, si elle est violente, si je la décris dans la première partie comme violente, dure, intransigeante, c'est parce qu'elle n'est pas aimable. Parce qu'on a évacué l'amour.
Et vous,
il faut revenir à l'amour.
Vous ne voulez pas qu'on confonde l'amour avec une affection passagère? On est des affectifs quand même dans notre société.
On est des affectifs.
On a le cœur battant vite pour beaucoup de choses.
Bien sûr. Mais il y a l'affection, il y a l'amour. C'est différent. Dans l'affection, il y a une attirance naturelle. Il y a quelque chose d'émotionnel, de rapide. Mais dans l'amour, l'amour est exigeant. Vous savez, quand Saint Paul dit l'amour accepte tout, prend tout, l'amour ne passera jamais. C'était l'amour exigeant et l'amour difficile. Là, on n'est pas dans la poésie. Et cet amour est puissant parce qu'il change les vies. Et notre société a besoin de retrouver cet amour vrai, authentique et réel, parce qu'alors, quand on aime, on va mieux et on vit mieux.
Vous dites aussi dans votre livre que vous croyez en la famille, en l'éducation, en la culture et en la politique. On reste quand même exigeant pour l'archevêque que vous êtes, l'évêque que vous êtes, le cardinal que vous êtes, avec le monde politique qui ne montre pas toujours un visage extrêmement positif, de confiance.
Effectivement, quand on regarde la vie sociale en général, on se rend compte très vite qu'on n'est pas au paradis.
Oui.
Quand on regarde la vie politique, économique, même de l'Église, nous ne sommes pas un club de parfaits. Et en même temps, la vie sociale a besoin de l'engagement des uns et des autres, a besoin de personnes qui s'engagent dans l'Église pour la dimension spirituelle, pour l'animation spirituelle, pour la dimension de la transcendance, de la hauteur, de la profondeur. Mais notre société a besoin de l'engagement des élus, de nos politiques. C'est pour ça que je le dis, parce que je le crois. Et nos politiques sont une bénédiction pour la société. Vous imaginez une société où il n'y avait pas des hommes et des femmes qui s'engagent pour le bien commun et pour les autres.
Que vous ne confondez pas avec l'intérêt général. Le bien commun, vous le distinguez.
Pour moi, il est important de souligner le bien commun. Dans l'intérêt général, il y a l'intérêt aussi. Et l'intérêt pourrait être interprété d'une manière maladroite. Quand on parle de bien commun, on parle de bien et commun à tous. Donc il n'y a pas de sectarisme, il n'y a pas de comportement maladroit, c'est le bien pour tous. Alors, notre société et nos politiques, et je les encourage à continuer leur parcours. Parce qu'on va voir surtout certains qui sont peut-être maladroits et qui profitent du système, mais la majorité des élus que je rencontre, je vois qu'ils veulent le bien de la société, qui s'engage, qui sacrifie du temps pour la société, pour ils sacrifient parfois leur famille, c'est pas évident, ils prennent beaucoup de coups, ils pourraient être aussi découragés. La société sans on est en démocratie. Soyons simples, on est en démocratie. De quoi se nourrit la démocratie? De l'engagement des uns et des autres. Il n'y a pas d'engagement, on tombe dans des régimes totalitaires. On tourne aussi, ou on se tourne vers l'anarchie. Donc il faut revenir à l'essentiel. Il faut célébrer ces hommes et ces femmes qui s'engagent et donnent le meilleur d'eux-mêmes pour une société meilleure. Après, il faut qu'ils vivent aussi leur conversion, qu'il y ait plus de proximité, qu'il y ait plus de détachement, qu'il y ait plus de liberté, plus d'authenticité, moins de mécanismes peut-être de système, et plus de liberté en pensant au bien des autres. Je pense que nos hommes et nos femmes politiques, ils grandissent et ils nous font grandir quand ils se détournent d'eux-mêmes et ils se tournent vers le peuple. Ils n'oublient pas qu'ils ont été élus par le peuple et pour le peuple.
On retrouve dans cet ouvrage des aspects de votre vie de religieux à travers la question de la quête intérieure, à travers la question de la force intérieure dont vous avez parlé, et puis ce recul et ce silence que vous voulez d'une certaine façon, réhabiliter, faire ce pas de côté parfois, oser prendre son temps, ne pas toujours être dans les mots.
Il le faut. notre société nous pousse à une forme d'agitation intellectuelle et actuelle. On est dans l'agitation, la société est frénétique, on court tout le temps, et on s'agite. Et peut-être la dimension du silence et du recul nous donne la capacité d'être plus dans la réflexion et moins dans l'agitation. Et la tradition monastique, je l'ai dit avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'admiration, dans la tradition monastique, on se pose, on se repose, on prend le temps, on ne perd pas du temps, on prend le temps pour soi, pour la nature, pour les autres. Autrement, on va être branché sur la voie, le savoir, le pouvoir, le faire, on ne soignait pas l'être. Et si on ne soignait pas l'être, on est malheureux et on rend les autres malheureux. Alors, il faut réparer d'abord. Il faut commencer toujours. Le chantier, il est à l'intérieur de nous.
Oui.
Donc, il faut commencer toujours par soi-même, par son propre cœur, sa conscience. Et après, à partir de là, on peut aller plus loin et on peut rayonner avec les autres.
Il nous reste quelques trop courtes minutes pour que vous nous parliez de la Corse. Vous êtes évêque d'Ajaccio pour l'ensemble de la Corse. J'imagine que vous voyez l'île de beauté. Et puis vous voyez aussi l'île qui a ses travers, ses difficultés, ses joies et ses peines au sein même des communautés chrétiennes. Qu'est-ce que vous diriez, avec un peu de recul maintenant, de ce que vous vivez au plan apostolique en Corse ?
La Corse m'a beaucoup appris depuis que je suis évêque. Effectivement, il y a des travers, il y a des combats, il y a des atouts uniques. La Corse m'a appris la dimension aussi de la proximité. Quand on est évêque, et on n'est pas là juste pour faire des messes pontificales, il nous faut aussi avoir cette proximité avec les personnes qui nous sont confiées. Si je ne connais pas les autres, leurs peurs, leur espérance, leur joie, leur rêve, de quoi je parle à l'homélie ? Certes, il y a la parole de Dieu, mais la parole de Dieu nous est donnée pour un peuple auquel je prêche. Donc pour moi, il était important, et les Corses m'ont appris, cette simplicité dans la vie relationnelle. Il y a un esprit de famille en Corse, un esprit de famille qui est important. L'Église n'est pas vue comme une menace. Il n'y a pas d'hostilité idéologique. Au contraire, il y a beaucoup de respect. Et je crois que dans ce respect, nous devons vivre et grandir. L'Église doit apporter à la société son génie propre. Et l'Église a besoin aussi d'apprendre de la société, de ceux qui sont engagés dans la vie politique, économique, sportive, et culturelle, que sais-je. On a besoin d'apprendre les uns des autres. Dans des périodes de crise, et je le vois en Corse, il faut fédérer. Et pour moi, il est toujours fascinant de me retrouver dans des milieux très différent de mon écosystème ecclésiastique et de voir qu'on est avec des bergers, qu'on est avec le milieu économique, qu'on bénit un bateau, qu'on va à un match, qu'on participe à un concert.
Vous aimez tout ça, toute cette diversité ?
C'est là qu'on voit aussi de quoi les gens vivent et pourquoi ils vivent. Si moi je vais à la messe, j'aurai toujours les miens, et c'est important. Si je vais à un match, ils ne seront pas contre moi ou contre l'Église. Ils ne vont pas peut-être tous les dimanches à la messe, mais on va avoir des contacts différents. Et je crois qu'il est important de tisser ces liens qui sont simples, mais à court ou à long terme, ils sont efficaces.
Merci beaucoup pour cet échange, cardinal Bustillo. Je rappelle le titre de cet ouvrage paru aux éditions Fayard, Réparation. On sent le philosophe. On sent le religieux, évidemment, et puis toute l'espérance chrétienne qui habite ce livre. Merci beaucoup. Vous terminez d'ailleurs toute la conclusion par la parabole des talents. Chacun a un talent à porter, c'est ce que vous disiez à l'instant. Hein. Merci beaucoup. Et puis,
merci à vous.
Bon pèlerinage à Lourdes, puisque vous êtes une nouvelle fois de passage à Lourdes à l'occasion du pèlerinage du Rosaire.
Merci à vous. Merci de m'avoir invité.
Présence
de passage à Lourdes, proposée par Mathias Terrier.
L'actualité près de chez vous, c'est aussi sur internet radioprésence.com et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Léon XIV exprime sa proximité envers les victimes du séisme en Indonésie.